Imaginez concevoir un bâtiment où chaque brique a genre sa propre volonté.
Voilà.
Ouais, une brique qui décide soudainement de l'endroit où elle veut se placer et qui refuse complètement de suivre vos plans initiaux.
Ça promet un beau désastre.
Ben exactement, le résultat, on pourrait logiquement s'attendre à un effondrement total.
C'est clair.
Pourtant, c'est exactement la métaphore paradoxale qui est utilisée dans l'un des textes les plus denses de l'Antiquité pour décrire en fait l'histoire humaine. Donc aujourd'hui, on va faire une exploration en profondeur et on plonge au cœur des chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains et on s'appuie sur une conférence vraiment très détaillée du docteur Craig Kinner.
Ouais, une source vraiment solide.
Absolument. Et je suis ravie d'animer ça car notre mission pour cette plongée, c'est de décortiquer des concepts souvent hyper intimidants.
Ah oui, très intimidant.
Des trucs comme la prédestination ou le basculement historique entre Israël et les nations païennes. L'idée, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de laisser le jargon académique à la porte, quoi.
On va essayer, oui.
On veut comprendre la mécanique de ces textes et voir comment l'histoire et la foi s'entremêlent réellement au final.
Et le défi est de taille, hein, parce que ces chapitres s'attaquent à ce qui est probablement la plus grande tension philosophique de la pensée humaine.
Ouais, c'est pas rien, hein.
Non, c'est pas rien. L'Épître aux Romains ne se contente pas de théologie abstraite, tu vois. Le docteur Kinner montre bien que ça propose un traité hyper complexe sur la condition humaine elle-même.
D'accord. Alors, le point de départ, et c'est ce qui rend la chose si difficile à saisir dès le début, c'est cette tentative de concilier un plan divin qui est décrit comme absolu avec les choix réels des êtres humains.
C'est le nœud du problème.
C'est ça. Comment un être suprême peut-il tracer, genre, les plans de l'architecte tout en laissant ces matériaux de construction libres de leurs actes?
Bien, le docteur Kinner, dans sa conférence, pose une base très stricte d'entrée de jeu. Selon son analyse du texte, la prédestination repose entièrement sur la grâce.
Donc rien à voir avec le mérite.
Exactement. Ça n'a absolument rien à voir avec le mérite humain. C'est le prisme par lequel tout le reste doit être lu, en fait.
D'accord.
L'intervention divine, dans ce cadre spécifique, c'est pas une transaction ou un bon comportement, j'en achèterais une faveur.
Ouais, c'est pas un système de points de fidélité, quoi.
Voilà, c'est ça. Et pour illustrer comment cette souveraineté s'exerce vraiment sur le terrain, la conférence analyse des événements historiques où l'action humaine semble entrer en collision frontale avec la volonté divine.
Ah oui, le cas du pharaon de l'Exode, par exemple.
Tout à fait. C'est emblématique.
Parce que le texte affirme que Dieu l'a suscité, c'est le terme spécifiquement, pour que sa puissance soit révélée.
Oui.
En gros, si je comprends bien l'analyse, Dieu avait besoin d'un dirigeant obstiné, quelqu'un qui résisterait pour que l'événement ne soit pas juste pas une petite fuite discrète dans la nuit.
C'est exactement ça. Il fallait une démonstration de force, dont on parlerait partout. La finalité dépasse largement le conflit local entre Moïse et Pharaon. L'objectif, selon la source, c'était vraiment une communication à l'échelle mondiale. Et on observe exactement la même dynamique de renommée internationale avec l'histoire de l'Arche d'Alliance.
Ah oui, quand elle est capturée par les Philistins dans le livre de Samuel, ça c'est fascinant.
Oui, raconte un peu.
Bah, les Israélites l'ont utilisée comme une sorte de talisman magique au combat, et du coup ils ont perdu.
C'est ça.
Et les Philistins l'ont emportée pour la placer comme un trophée dans le temple de leur propre dieu, Dagon.
Grosse erreur.
Grosse erreur, oui.
Oui.
Le récit décrit une scène tellement frappante. La statue de Dagon est retrouvée face contre terre, devant l'arche, le lendemain. Donc ils la remettent debout. Mais le jour suivant, Dagon est non seulement de nouveau par terre, mais sa tête et ses mains sont carrément coupées.
Une vraie décapitation symbolique.
C'est ça. Et en plus de ça, la conférence rappelle que des tumeurs frappent le peuple philistin. En fait, Dieu ne cherchait pas juste à récupérer un objet sacré. Il orchestrait carrément une humiliation publique des dieux locaux pour se faire connaître mondialement.
Ouais, c'est impressionnant. Et ça illustre parfaitement, tu vois, la coexistence mystérieuse entre l'orchestration divine et les choix humains.
Comment ça, là?
Bah, les Israélites ont choisi, par eux-mêmes, d'être superstitieux avec l'arche.
Ouais, c'est vrai.
Et les Philistins ont choisi d'être des pilleurs arrogants. Et pourtant, Dieu utilise ces trajectoires totalement libres pour asseoir sa propre révélation.
C'est incroyable.
Le docteur Kinner souligne la même mécanique avec l'Empire d'Assyrie.
Ah oui, l'Assyrie.
Oui, Dieu utilise cette nation comme, je cite, « la verge de sa colère pour punir son propre peuple ».
Ouais, mais attends, d'accord, décortiquons un peu tout ça, parce que c'est là que ça coince pour moi. Si Dieu a prévu depuis le début de punir la Syrie pour une arrogance et une cruauté qu'il a lui-même orchestrée pour accomplir ses plans, en quoi la Syrie a-t-elle réellement exercé un libre arbitre?
C'est la grande question.
Ça ressemble un peu à un jeu truqué d'avance, non? comment on peut être puni pour avoir fait exactement ce qui était prévu sur le script?
Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est précisément là que notre esprit moderne, tu vois, notre esprit post-lumière, se heurte de plein fouet à la pensée antique.
Ouais, on veut que ce soit logique.
Voilà. Nous, on cherche une équation mathématique simple, genre si A contrôle tout, bah B ne peut absolument pas être libre.
Ben, ça paraît logique, oui.
Mais dans la pensée du Proche-Orient ancien, le conférencier explique qu'il y a des couches de causalité. La Syrie n'était pas une marionnette passive avec les fils tirés d'en haut.
D'accord.
Son roi avait une soif de conquête bien à lui, totalement authentique. Il voulait détruire, il voulait piller.
Il était déjà cruel de base.
Exactement. Dieu n'a pas implanté ce désir malveillant. Il a simplement canalisé une trajectoire violente qui existait déjà pour l'amener vers un but spécifique. Donc la Syrie reste responsable de sa cruauté parce qu'elle a agi selon ses propres désirs profonds.
Ah, je vois.
Et le docteur Kinner donne un autre exemple, mais dans un sens positif cette fois, avec l'histoire de Saül.
Ah oui, le premier roi.
Oui, Saül part chercher des ânesses perdues. Et il le fait par pur choix personnel.
Il voulait juste retrouver ses bêtes, quoi.
C'est ça. Sans savoir que ce trajet super banal et sa propre décision de chercher à tel ou tel endroit l'amène droit au prophète Samuel pour être un roi d'Israël.
D'accord, donc le choix est réel, mais il est canalisé sans que la personne s'en rende compte.
C'est l'idée.
Et ça nous amène directement à cette fameuse analogie du potier et de l'argile.
Ah, voilà.
C'est tiré d'Ésaïe et Jérémie, c'est ça?
Oui, tout à fait.
L'argument de Paul, c'est que l'argile ne peut pas demander au potier « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?»
C'est le texte, oui.
Mais si je suis la logique jusqu'au bout, si Dieu façonne lui-même les vases de colère, comment l'interlocuteur imaginaire de Paul peut-il être tenu pour responsable? On revient quand même à la même contradiction, non?
Eh bien, la conférence met en lumière un fait vraiment crucial sur ce point. L'apôtre Paul ne tente même pas de résoudre cette tension pour satisfaire notre philosophie grecque ou occidentale.
Il assume complètement.
Il assume. Il exige carrément que nous tenions ces deux vérités parallèles en même temps.
Wow.
Dieu orchestre l'histoire à une échelle macroscopique pour amener une justice finale, oui. Mais l'humanité reste pleinement responsable de sa rébellion à l'échelle microscopique individuelle.
C'est super dur à conceptualiser.
Kinner explique que, en fait, annuler la souveraineté, ça réduirait Dieu à un simple observateur impuissant. Mais de l'autre côté, annuler la responsabilité ferait des humains de simples robots sans aucune moralité. Donc le texte assume ce mystère insondable sans s'excuser.
Ouais, tu sais à quoi ça me fait penser?
Vas-y.
C'est un peu comme la physique quantique.
Ah oui?
Ouais, où l'on doit accepter, par exemple, que la lumière est à la fois une onde et une particule.
C'est une excellente comparaison.
Même si notre cerveau a vachement de mal à visualiser les deux états en même temps, c'est la réalité.
Tout à fait.
Mais du coup, si cette souveraineté orchestre l'histoire, comment ça se manifeste concrètement pour les individus qui essayent, eux, de s'approcher de ce Dieu? Parce que le texte décrit une fracture majeure à un moment donné.
Historiquement, l'analyse montre que le constat est saisissant. Israël a cherché à atteindre le cadre moral de Dieu par les œuvres.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire par un système strict d'auto-justification, en s'appuyant sur l'obéissance aux règles, à la loi.
D'accord.
À l'inverse, les nations païennes, les gentils, qui n'avaient pas du tout cette loi au départ, l'ont saisie comment? Par la foi.
Et le docteur Kinner souligne que l'Ancien Testament avait déjà, en fait, anticipé ce basculement improbable.
Oui, il cite des textes prophétiques assez forts.
Ouais, il cite le prophète Osée, c'est Fouta, Osée qui a dû donner à ses propres enfants des noms d'un tragique absolu.
Ouais, c'est très lourd.
Il y a Lo-Ami, qui signifie « pas mon peuple », et Lo-Ruama, qui veut dire « non-aimé
».
Mais la prophétie annonçait que ceux portant ces étiquettes de rejet deviendraient un jour « mon peuple » et « bien-aimé ».
C'est un retournement complet.
C'était l'indice clair que des populations totalement exclues, les païens, allaient être intégrées au final.
Et pourtant, cette intégration s'est heurtée à un véritable mur de sectarisme.
Comment ça ?
Pour comprendre comment une telle fermeture d'esprit s'installe, la conférence s'appuie sur des découvertes archéologiques. Les manuscrits de la mer morte à Qumran.
Ah, la fameuse secte des Esséniens.
Voilà. Cette communauté s'était isolée dans le désert pour préserver sa pureté, absolue, selon eux. Et ils en étaient venus à qualifier le reste d'Israël, c'est-à-dire leurs propres frères, tu vois, de communauté de Bélial. En gros, la communauté de Satan.
Ah, waouh! Juste parce qu'ils n'étaient pas aussi stricts qu'eux?
Exactement. Ça illustre le danger extrême de se croire supérieur par ses propres œuvres.
Mais en y réfléchissant, c'est un mécanisme humain très moderne, ça.
Ah oui, complètement.
C'est exactement ce qu'on observe dans certaines dynamiques tribales aujourd'hui, sur les réseaux sociaux ou dans les chambres d'écho idéologiques.
La mécanique est la même.
Dès qu'un groupe définit sa propre valeur par sa pureté morale ou par le respect super strict de certaines règles, quiconque n'atteint pas ce standard parfait n'est plus seulement dans l'erreur, la personne devient le mal absolu.
Le sectarisme, c'est un sous-produit naturel de la justification par les œuvres.
Ouais.
Si on pense vraiment mériter sa place par ses efforts, on finit automatiquement par mépriser ceux qui ne font pas les mêmes efforts.
C'est inévitable.
Et c'est dans ce contexte hyper rigide qu'apparaît la figure de Jésus, que Paul, en citant d'ailleurs Ésaïe et Daniel, décrit simultanément comme une pierre d'achoppement et une pierre angulaire.
Donc, une fondation solide pour ceux qui ont la foi, mais un obstacle sur lequel se brisent carrément ceux qui cherchent à s'auto-justifier.
C'est ça l'image.
Le docteur Kinner raconte d'ailleurs une anecdote très parlante dans sa conférence sur la puissance de ce texte. C'était lors d'une discussion avec un témoin de Jéhovah, je crois.
Oui, c'est une anecdote personnelle qu'il partage pour illustrer le point.
Il a utilisé Romains chapitre 10, verset 13, le texte qui cite Joël 2, 32. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé
».
En analysant le contexte original, Kinner démontre que Paul prend ce titre divin suprême de l'Ancien Testament, le nom de Dieu, et l'applique sans équivoque directement à Jésus.
Ouais, et la méthode pour invoquer ce nom, elle est résumée par une formule qui est tirée du livre du Deutéronome.
C'est laquelle déjà ?
« Confesser de sa bouche et croire dans son cœur ». Et le conférencier insiste sur un détail super fascinant sur cette phrase. Ce n'est pas une exigence physique excluante.
Oui, il précise même qu'une personne sourde ou muette peut tout à fait être sauvée via la langue des signes, par exemple.
C'est ça. Le texte ne demande pas une sorte de rituel vocal magique.
Non, ça parle vraiment d'une adhésion authentique au message, au fond.
Exactement. D'où l'importance de la prédication, d'ailleurs, qui est justifiée par la belle citation d'Ésaïe sur la beauté des pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle.
C'est très poétique. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce basculement historique entre les œuvres et la foi, ça reste quand même contre-intuitif. S'ils cherchaient sincèrement à plaire à Dieu avec leurs règles, pourquoi ils ont échoué ?
C'est la question que l'apôtre pose.
J'essaie de me le représenter. C'est un peu genre s'inscrire à un marathon en choisissant délibérément de porter un gilet lesté de 50 kilos pour prouver au public sa force et son mérite.
Ouais, bonne image. Bah, en fait, c'est très exactement ce que le texte original grec essaye de transmettre avec le mot « télos ».
Ah, télos.
Ouais. Ce terme, il est souvent traduit par « la fin de la loi », tu sais. Ce qui donne à tort l'impression que la loi a été détruite ou complètement abolie.
D'accord.
Mais « télos », ça signifie principalement « le but » ou justement « la ligne d'arrivée ».
Ah, je vois.
La loi n'était pas le sport en soi, ni le gilet lesté. Elle était le panneau indicateur pointant vers le Christ.
D'accord.
La méthode de l'auto-justification, elle échoue inévitablement, parce que l'être humain s'effondre toujours sous le poids de ses propres imperfections. La grâce ou la voiture, dans ton analogie, elle retire tout mérite personnel. Et c'est ça qui froisse profondément l'ego de ceux qui ont passé leur vie à s'entraîner avec le gilet lesté.
Donc, les nations païennes, les nouveaux venus, eux, ils montent dans cette voiture avec joie, sans avoir jamais porté le gilet.
C'est ça.
Et une grande partie du peuple d'origine trébuche. Mais du coup, comment ces bénéficiaires de la grâce, les païens, ont-ils réagi face à ceux qui restaient sur le bord de la route ?
C'est là que Paul aborde la question avec une extrême prudence. Il rappelle d'abord avec force que Dieu n'a pas rejeté son peuple.
Mmh.
Il introduit un concept clé, le concept du « reste ».
Ah oui, avec le prophète Élie.
Oui. Il utilise l'histoire d'Élie qui, face à la cruauté de la reine Jézabel, fuyait dans le désert en se plaignant. Il pensait être le tout dernier croyant sur terre.
Il était en pleine déprime.
Totalement. Et Dieu lui révèle alors un reste de 7000 personnes qui n'ont jamais plié le genou devant l'idole Baal. La continuité de ce peuple est toujours assurée par Dieu.
D'accord. Et pour illustrer comment les païens s'intègrent à cette continuité historique, Paul déploie sa fameuse métaphore de l'olivier, non ?
Oui, l'olivier. Très connu.
Les croyants des nations sont comparés à des branches d'olivier sauvages qui sont greffées et le texte dit « contre nature, sur l'arbre cultivé d'Israël. »
Exactement. Les païens sont ajoutés à l'arbre pour bénéficier de la sève des racines historiques.
C'est un privilège, en fait.
C'est un immense privilège. Mais, et c'est crucial, cela s'accompagne d'un avertissement très clair.
Lequel ?
Paul implore littéralement ses branches greffées, les païens, de ne surtout pas se glorifier et de ne pas mépriser les branches naturelles qui ont été coupées.
Ouais, et c'est là que l'analyse historique du docteur Kinner devient particulièrement sombre.
Oui, la conférence aborde des faits très lourds.
Cet avertissement a été tragiquement ignoré de manière quasi totale. L'Église, au fil des siècles, est devenue majoritairement non-juive
Oui.
et elle a développé ce qu'on appelle la théologie de la substitution, c'est ça?
Tout à fait. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est le mécanisme psychologique par lequel un groupe, qui était autrefois minoritaire, s'empare du pouvoir politique et institutionnel.
Et ça dérape.
Ça dérape complètement. Il transforme un message d'inclusion en un outil d'exclusion. L'Église s'est mise à revendiquer qu'elle avait purement et simplement remplacé Israël dans les plans de Dieu.
Et la liste des atrocités commises historiquement au nom du Christ à cause de cette théologie, c'est effroyable.
La conférence rapporte ces faits de manière très impartiale, mais c'est glaçant.
Oui, Kenner cite les pogroms. Il évoque aussi les horreurs de l'Inquisition.
L'inquisition.
C'est terrible parce que des personnes juives qui avaient pourtant été forcées au baptême étaient maintenues sous l'eau lors de ce baptême.
Jusqu'à la noyade.
Jusqu'à la noyade, oui.
Simplement pour, soi-disant, s'assurer qu'elles ne se rétracteraient pas plus tard.
C'est d'une cruauté sans nom.
Et le docteur mentionne bien sûr les théologiens nazis.
Oui. Eux, ils ont carrément fait des pirouettes intellectuelles hallucinantes pour, en gros, déjudaïser Jésus.
Exactement. Ils allaient jusqu'à fabriquer le mensonge ahurissant selon lequel la Galilée était une région purement païenne.
L'ironie de tout ça est juste suffocante, franchement.
C'est le mot.
Ces croyants issus des nations, sauvés uniquement par la grâce, sans aucun mérite, sont tombés exactement dans le même orgueil meurtrier que Paul dénonçait au départ chez ceux qui s'appuyaient sur la loi.
C'est la répétition de l'histoire.
Ils ont simplement troqué le gilet lesté de la loi contre un gilet lesté d'arrogance religieuse.
C'est la démonstration historique parfaite et tragique de ce qui se passe quand on oublie qu'on est soi-même un simple bénéficiaire de la miséricorde.
C'est sûr.
L'intention originelle de Paul dans ses textes, elle était radicalement différente.
Oui, son but, c'était l'unité.
Son espoir déclaré, c'était que l'intégration des païens suscite une sorte de bonne jalousie.
Ah, une bonne jalousie.
Voilà. En voyant des nations lointaines adorer le Dieu d'Abraham avec autant d'amour, le peuple d'origine aurait dû être inspiré. Ils auraient dû être désireux de revenir vers leur Dieu.
Mais c'est impossible. Comment tu veux ressentir de la jalousie, même spirituelle, envers un mouvement qui te persécute, te noie et réécrit ton histoire?
C'est ça le drame. La violence historique a rendu ce témoignage méconnaissable.
Du coup, après tous ces siècles de relations complètement brisées et de persécutions sanglantes, on pourrait croire que le projet est un échec total.
On pourrait le penser, oui.
Mais le texte ne s'arrête pas là. Il s'oriente vers un dénouement inattendu. Alors, quelle est la résolution envisagée pour l'avenir de cet arbre fracturé?
Elle a frappé Israël, mais, et c'est crucial, il précise que cet état n'est que temporaire.
Temporaire. D'accord.
Il dit que ça durera jusqu'à ce que, je cite, « la plénitude des gentils soit entrée ».
La plénitude des gentils. C'est-à-dire?
Le conférencier explique que cela désigne le moment où le nombre maximum de nations païennes, la totalité prévue, aura été intégrée au plan divin.
D'accord. Et ensuite, Paul lâche cette phrase monumentale en citant Ésaïe, « Tout Israël sera sauvé ».
Oui, Romains 11, 26.
Mais comment le docteur Kenner définit-il ce « tout Israël » Est-ce que ça veut dire chaque individu sans exception?
Cela soulève une question importante. Kenner, de manière très intéressante, s'appuie sur une source rabbinique pour éclairer ce concept.
Ah oui, laquelle?
La Mishnah Sanhedrin, chapitre 10. Selon ce cadre de pensée antique, « tout Israël » ne désigne pas nécessairement chaque être humain individuellement à 100%.
Ah, d'accord.
Ça désigne plutôt le peuple dans son ensemble, en tant qu'entité collective devant Dieu.
Je comprends.
Ce qui se dessine selon Kinner, c'est une vaste valse historique des rôles. Israël et les gentils s'échangent tour à tour les positions de désobéissance et de rébellion au fil des siècles.
Chacun son tour, quoi.
Chacun son tour. Mais l'objectif ultime derrière tous ces cycles de fractures, c'est, selon Paul, d'enfermer tout le monde dans la désobéissance pour, au final, pouvoir faire miséricorde à tous.
Waouh ! Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Et est-ce que ce concept de plénitude, ça suggère l'existence d'une sorte de ligne d'arrivée cosmique, genre un moment où cette histoire humaine qui est tellement chaotique et sanglante trouve enfin sa résolution?
Absolument. Et le docteur Kenner insiste sur la nature de cette promesse. Elle n'est pas conditionnelle.
Elle ne dépend pas de nous.
La restauration finale ne dépend pas de la perfection morale des acteurs impliqués. Et heureusement, car l'histoire a largement prouvé leur faillibilité.
C'est clair.
C'est une attente prophétique incontournable. En fait, l'architecture globale des chapitres 9 à 11 révèle une symétrie qui est assez impressionnante.
C'est-à-dire?
Malgré les matériaux de construction rebelles,
pour reprendre ta métaphore du début, malgré l'arrogance meurtrière des branches greffées, l'histoire est tissée de manière à ce que la grâce ait systématiquement le dernier mot.
C'est très beau.
C'est pour ça que Paul conclut toute cette section théologique par une doxologie, tu sais, un grand chant de louange.
Ouais, il s'émerveille.
Il s'émerveille complètement de la profondeur et de l'insondabilité de ce plan. Et ça prépare parfaitement les fondations pour les conseils très pratiques sur l'humilité qu'il va donner au chapitre 12.
Mais dis donc, pour résumer cette vaste exploration pour notre audience, on a navigué au cœur de la tension entre un plan souverain implacable et notre capacité de choix.
Un gros programme.
Oui, on a examiné l'analogie du potier et celle si fragile de l'olivier. Et on a surtout été confronté au rappel glaçant de ce qui se produit vraiment lorsque l'humanité transforme la grâce en un outil de supériorité.
C'est une leçon d'histoire sévère.
Mais alors, pourquoi ces débats antiques sont-ils pertinents pour ceux qui écoutent cette analyse aujourd'hui ? Je veux dire que l'on approche ces textes d'un point de vue purement historique, philosophique ou spirituel. Ils offrent une leçon implacable sur le danger de la prétention intellectuelle, non ?
Totalement. C'est un appel retentissant à une humilité structurelle. La tendance humaine à vouloir s'attribuer le mérite de ses succès ou de ses privilèges, c'est un piège perpétuel, hier comme aujourd'hui. Comprendre vraiment la grâce, selon ce texte, c'est réaliser que nous occupons très souvent des positions que nous n'avons absolument pas gagnées par nos propres forces.
Exactement. Et mépriser ceux qui trébuchent, c'est en fait amorcer notre propre chute.
C'est bien résumé.
Pour clore cette réflexion, voici une pensée provocatrice à méditer pour notre audience.
Je t'écoute.
Si l'analyse de ce texte par le docteur Kinner suggère que même l'entêtement le plus profond, les erreurs de parcours et les fractures historiques peuvent être utilisées par un architecte invisible pour tisser une inclusion universelle finale,
ouais.
Eh bien, quel conflit dans notre monde moderne, quelle fracture idéologique qui nous semble aujourd'hui complètement irréparable et définitive, pourrait secrètement poser les fondations d'une unité future totalement inattendue ?
C'est une question vertigineuse.
C'est une perspective qui change complètement notre façon de regarder le chaos autour de nous.
Absolument.
Merci d'avoir exploré tout ça avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve pour la prochaine plongée.